France Musique. Musique et moi, une émission en partenariat avec le magazine Grazia.
Musique et moi.
Vincent Bioulès.
Elsa Boublil.
Ce n'est pas le temps qui nous manque, c'est nous qui le manquons.
Paul Claudel. Théodore Currensis dirige ce crié du Requiem de Mozart que vous avez chanté sous une douche rue de Bussy à Paris, 6e en 1963. Vincent Bioulès, vous qui êtes peintre et qui êtes exposé en ce moment jusqu'au 6 octobre prochain au musée Fabre de Montpellier. Chemin de traverse, c'est le titre de cette rétrospective qui retracera votre vie en peinture et qui est pour nous l'occasion de vous inviter à partager avec nous vos goûts musicaux, Vincent Bioulès, puisque France Musique est partenaire de cette exposition. Vous, qui êtes un grand amateur de musique, fils de musicien, je crois, je vous voyais diriger le chœur. Vous avez choisi le pinceau pour exprimer vos émotions, mais la musique est toujours tout à côté. Bonjour, Vincent Bioulès.
Je suis quand même d'abord un peintre.
Hein. Oui.
J'aime énormément la musique, mais je ne suis pas à proprement parler un musicien. Mon père me disait, tu adores la musique, je pense que tu l'aimes profondément, mais c'est ta femme qui est musicienne. Parce que mon cerveau n'est pas structuré comme un cerveau de musicien.
Ah bon? Vous en avez la certitude?
Oui, j'en ai la certitude. Et alors, je reviens sur cette exposition. C'est pour moi une très grande joie, un très grand honneur de pouvoir faire cette rétrospective dans le musée Fabre à Montpellier. J'y ai été invité par Michel Hilaire et ça m'a beaucoup touché. Et ça me permet de faire un examen de conscience. Et faire un examen de conscience à 81 ans, c'est une chose très salutaire.
Ouais.
Et c'est là où on s'aperçoit, justement, est-ce que nous avons manqué le temps au bout, est-ce que nous avons su nous en servir?
Ouais.
Mais avant de continuer sur l'exposition, vous nous avez dit là, que j'avais chanté ça dans une cabine de douche de la rue de Bussy. Effectivement, j'habitais à ce moment-là rue Mazarine, dans une chambre de bonne où je n'avais pas de douche, et j'allais prendre des douches rue de Bussy. Et tout d'un coup, sous la douche, j'ai sifflé le thème du Kyrie que nous venons d'entendre. Et dans la cabine à côté, quelqu'un a sifflé le contrepoint.
Ah,
alors
génial.
Nous avons sifflé en nous douchant, et puis ensuite, bon, la douche s'est arrêtée, et puis j'ai jamais retrouvé qui avait été la personne qui m'avait, j'allais dire, accompagné. J'ai trouvé ça très drôle. Et alors, c'est amusant que ce Kyrie, qui est un chef-d'œuvre de contrepoint, et puis ensuite une référence absolue à la musique ecclésiastique, puisque c'est une fugue rigoureuse, me fasse penser au fond à un souvenir un peu comique et un peu drôle.
Oui, et alors qui l'a interprété à vive allure et qui nous renvoie à cette phrase de Paul Claudel que vous citiez en ouverture d'émission, ce n'est point le temps qui nous manque, c'est nous qui le manquons, justement.
Ben, je pense qu'un peintre se pose cette question-là tous les jours.
C'est vrai ?
Oui, il faut absolument, enfin personnellement, depuis quelques jours, là, justement, la préparation de cette exposition dont le vernissage a eu lieu le 14 juin, c'est quelque chose qui fait de moi un peu un homme mangé.
Ouais.
Et donc, la question du temps se pose. Et puis, quand on arrive à un certain âge, il faut traverser ces moments comme s'ils n'étaient pas l'aboutissement de quelque chose, mais tout simplement comme un événement particulier et qui va nous permettre de travailler à nouveau et autrement. Et ça, c'est quelque chose, il y a un rapport au temps qui est une vraie question, une question métaphysique, bien sûr, mais aussi une question pratique.
Eh ben, vous êtes avec nous pendant une heure et demie, ben Vincent voilà. Boulès. Vous êtes l'invité de Musique et Moi, donc jusqu'à midi et demi sur France Musique. Et nous aurons l'occasion, effectivement, de mettre pendant cette heure et demie en parallèle votre travail de peintre et votre rapport à la musique et à l'émotion.
Thank you.
Peter Schreier et Agnès Balza interprètent ce Et Misericordia du Magnificat en ré majeur de Bach avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin sous la direction de Herbert von Karajan. C'est un magnifique duo entre voix ténor et contralto. Vincent Bulès, c'est un premier souvenir musical?
Alors d'abord, cette interprétation-là est d'une sensualité extraordinaire. Et Bach est un grand mystique, mais c'est aussi un homme totalement charnel. Et comme nous le disions à micro fermé, c'est une chose que c'est un slow. On pourrait danser ça dans une boîte à Berlin. C'est extraordinaire. Alors, est-ce mon premier souvenir musical? Je le crois. Parce que mon père a dirigé le Magnificat de Bach en 42.
Votre père était chef de chœur,
oui,
c'est ça?
A dirigé ce Magnificat en 42. Donc j'avais 4 ans. Et dans la chapelle où, dont il était le maître de chapelle. Et je me souviens d'un timbre de voix. Et je pense que c'était celui du ténor, qui s'appelait Georges Catla, qui a été le parrain de ma sœur, qui a fait une brève carrière dans le chant, parce qu'il vivait d'une manière un peu désordonnée. Mais néanmoins, il a chanté Péléas avec Janine Michaud à New York. C'est quelqu'un qui a été très connu à un moment donné, qui avait, je pense, étudié le chant à la Scola Cantorum aussi. Et alors, est-ce que c'est sa voix dont je me souviens, mais c'est d'une sorte de dorure dans la clarté de l'église, et je pense que c'est ça. Seulement, tous les souvenirs deviennent des récits. Et à partir du moment où ils deviennent des récits, ils se structurent, et ce n'est pas un souvenir dont je vous parle, mais c'est une histoire que je vous raconte.
Oui, tout à
alors,
fait.
Alors, c'est là où il faut se méfier un peu de soi-même. Mais alors, par contre, j'ai été doté d'une, je crois, d'une extraordinaire mémoire visuelle, puisque j'ai des souvenirs visuels qui remontent à l'âge de 18 mois. On m'a dit « c'est impossible ». Alors j'ai dit « écoutez, moi je pense que c'est vrai ». Alors je suis allé vérifier, parce que je n'étais pas allé dans le village du Malzieu, en Lozère, depuis l'été 39. Et puis 60 ans après, j'y suis allé, et j'ai bien retrouvé ce dont je me souvenais.
En particulier des
tour,
paysages.
Une tour à l'angle d'une rue et des pierres sur les bords de la truyère pour permettre aux gens de laver le linge.
Donc le souvenir musical que nous évoquions là à l'instant, donc ce Et Misericordia du Magnificat, c'est d'abord un souvenir visuel. Alors, l'image vous renvoie à la musique.
Je pense. Mais c'est très difficile de parler de ces choses-là d'une manière objective. Pour cette question, c'est que toutes ces choses se structurent. Passe dans le registre de la parole, du langage et de la transmission, et il faudrait se retrouver dans des conditions un peu semblables à celles d'une analyse, dans une sorte d'attention flottante, de demi-sommeil, pour revivre ça physiquement.
Cette enfance avec votre père chef de chœur a été baignée dans la musique. Vous disiez tout à l'heure que votre cerveau n'est pas structuré pour la musique. Qu'est-ce qui vous fait dire cela, Vincent?
Parce que je suis incapable d'abstraction. Je suis un type complètement physique, finalement.
Et la musique est trop abstraite pour vous?
Souvent.
Le Kyrie eleison de la Missa Eterna Christi Munera de Giovanni Perluigi da Palestrina avec la chorale Philippe Caillard, sous la direction de Philippe Caillard. Alors c'est un compositeur qu'on n'entend pas souvent, un compositeur roman du XVIe siècle qui a composé essentiellement des œuvres religieuses. Pourquoi nous avoir proposé cette œuvre-là?
Parce que ça, c'est la musique de mon enfance. C'est-à-dire que mon père est maître de chapelle et dirige le dimanche des messes de Palestrina ou de Victoria à la chapelle de l'enclos Saint-François, dont il était donc le maître de chapelle. Et c'est cette musique dans laquelle je suis né. C'est un son dans lequel je suis né. Seulement, lorsque j'étais gosse, je n'aimais pas ça parce que la musique me prenait ma mère.
Vous prenez votre mère, oui, expliquez-nous.
Parce que quand on fait de la musique, on est totalement avec les musiciens, avec la musique, et les gens qui sont à côté ne comptent pas. Ouais. Et donc, je voyais ma mère chanter, et ma mère n'était plus avec moi. Elle était plus que jamais avec mon père, et ensuite avec la musique. Et c'est une chose, tout d'un coup, j'ai dit, je ne veux plus jamais faire, parce qu'on avait essayé de me donner le son de piano, plus jamais faire de la musique, je vais faire de la peinture, j'allais dire, pour me venger.
Parce qu'elle faisait partie du cœur de votre père.
Oui, bien entendu.
C'est ça.
Voilà. Et alors, cette version que nous venons d'entendre, j'y ai participé, puisque j'ai chanté dans ce cœur avec ma femme dans les années 60. Je pense que ça a été enregistré fin 61, ça.
Oui, et donc, du coup, alors, vous avez...
Et après, je me suis
réconcilié. Voilà, parce que vous êtes vengé en allant vers la peinture.
Mais je me suis réconcilié avec la musique, puis j'ai épousé une femme musicienne, et pour l'approcher, j'avais 16 ans, elle en avait 14, je me suis mis à prendre le violon, et de manière à faire de la musique de chambre à ses côtés.
C'est vrai.
Oui.
Donc finalement, vous avez reproduit un peu ce que vos parents avaient fait, c'est-à-dire la musique pour se rapprocher, pour être ensemble.
Voilà, tout à fait. Mais mon père a raison, c'est ma femme qui est musicienne et c'est pas moi. Et quand tout à l'heure on a évoqué le cerveau, je crois que je vais dire une chose très très prétentieuse. Tous mes camarades peintres, j'espère qu'ils ne vont pas m'écouter, mais on voulait beaucoup. Je pourrais dire, par exemple, j'ai de l'œil comme Boulez avait de l'oreille.
Oui, vous avez l'œil absolu.
J'ai l'œil absolu. Ouais. Je me suis quand même fait opérer de la cataracte, mais j'ai l'œil absolu.
Ça veut dire quoi?
Mais je n'ai pas l'oreille absolue. C'est-à-dire que les structures très abstraites de la musique me passionne, m'intéresse, me fascine, mais ce n'est pas mon monde. Et c'est pour ça que j'ai aussi, lorsque j'étais beaucoup plus jeune, j'ai beaucoup aimé tout d'un coup profondément la musique de Debussy, parce qu'elle était pour moi une musique vraiment sensuelle, une musique que l'on pouvait presque toucher.
Alors que la musique, les messes par exemple...
Ah ben les messes de Palestrina, c'est quand je les ai chantées que j'ai appris à les aimer.
Et Bach, par exemple.
Ouais, non, ce Bach aussi, bien sûr, parce que j'ai eu des émotions très profondes qui m'ont été données par une cantate de Bach lorsque j'étais à peine adolescent.
Ou la Passion selon Saint-Jean.
Ou la Passion selon Saint-Jean, oui, tout à fait.
Heiligen Gebeine, l'acte 2 de la Passion selon Saint Jean de Jean-Sébastien Bach, interprété par le chœur et l'orchestre symphonique de la radio bavaroise sous la direction de Eugen Jochum, et qui est vraiment dans cette intensité de la chorale, nous renvoie à cette fin tragique de cette Passion selon Saint Jean. Vincent Bulès, je vous voyais encore une fois diriger avec intensité.
Lorsque j'ai chanté la première fois cette Passion, je pense que j'avais 14 ans. Lorsque je suis devenu, j'ai pris une voix de basse et ma mère m'a dit : tu verras, à la fin, c'est tellement beau que la mort n'a aucune espèce d'importance.
C'est vrai. C'était. Je vous vois ému, évidemment.
Ah ben, c'est une chose extraordinaire. Et qui m'a pénétré très profondément. Et alors, dans ces versions anciennes, vraiment, la durée est extraordinaire, parce que ça pourrait ne jamais s'arrêter. Et en même temps, ce n'est pas long, mais c'est le temps qui est étalé. Il y a une sorte de dilatation de l'instant qui est prodigieuse, et que l'on ne retrouve que parfois chez Wagner.
Et ce que vous avez évoqué sur, effectivement, ce rapport à la mort, à cette fin de cette Passion sur Saint-Matthieu, est-ce que vous l'avez vous-même éprouvé, c'est-à-dire ressentir cette tragédie qui nous élève ?
Oui. Vous savez, je pense que c'est des choses auxquelles on pense tous les jours, si on pense un peu.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Donc, à 14 ans, vous êtes revenu à la musique, Vincent Bulès, pour approcher la femme qui serait votre future femme. Mais vous êtes passé par l'envie précise de dessiner. Est-ce que ça date de l'enfance, de la petite enfance ?
J'ai commencé à dessiner très tôt et je n'ai jamais fait de dessin d'enfant. J'ai fait des dessins d'adultes maladroits tout au début de ma vie.
Et ça veut dire quoi, des dessins d'adultes qui ne sont pas des dessins d'enfants ?
Parce que je voyais déjà le monde à trois dimensions. Parce que je vivais environné de tableaux, quand même. Il y avait beaucoup de tableaux chez mes grands-parents et chez mes parents. Et ce sont les tableaux qui m'ont fait découvrir la nature.
C'est par les tableaux, vous
dites ? C'est par les tableaux. C'est par, au fond, la réalité du langage que j'ai abordé le réel. Parce que passer du réel à la réalité, c'est une difficulté quotidienne pour un peintre. Nous sommes là, par exemple, dans ce studio, j'aperçois cette muraille là-bas éclairée par la lumière. C'est le mystère de l'évidence. C'est extraordinairement mystérieux. Et pour pouvoir faire de ce que je vois une chose mienne, il me faut l'apprivoiser. Et je ne puis l'apprivoiser que par le langage. Là, nous parlons, mais mettons le langage de la peinture, qui est une façon de s'approprier le monde, de le déchiffrer.
Et donc de rendre le monde que l'on voit réel à travers son regard.
Voilà. Mais pour que le réel soit perçu, il faut la réalité du langage. C'est au fond une structure syntaxique qui nous permet de comprendre ce qui nous entoure.
Ça plairait beaucoup à Lacan, ça.
Bon, si j'avais su, je...
Donc, en tout cas, par rapport à ce langage qui a été le vôtre, très tôt, ça a été un langage structuré.
Voilà. Et ensuite, donc, j'ai essayé de le perfectionner, bien sûr, parce que j'ai voulu faire de la peinture. Et mes parents m'ont rendu de grands services. Ils m'ont jamais empêché de faire ce que j'avais envie de faire. Mais mon grand désir a été, quand j'étais au collège, à la fin de ma scolarité, d'aller à l'école des Beaux-Arts. Et quand je suis rentré à l'école des Beaux-Arts, j'ai été vraiment un homme très heureux. Aller dessiner le lundi matin, pour moi, c'était une joie absolue.
Thank you.
Harry Christophers dirige l'Academy of St. Martin in the Fields et l'ensemble vocal Sixtine dans cette introïte Kyrie du Requiem de Gabriel Fauré. C'est un Requiem qu'il a composé peu de temps après la disparition de ses parents et on ne sait pas quel est le caractère religieux de cette œuvre puisque lui-même a écrit « Mon Requiem a été composé pour rien, pour le plaisir si j'ose dire » et on a dit qu'il n'exprimait pas l'effroi devant la mort, quelqu'un l'a appelé une berceuse de la mort, mais c'est ainsi que je ressens la mort, comme une délivrance heureuse, plutôt que comme un passage douloureux. Vincent Biulès, c'est une œuvre qui compte pour
vous. Alors ça compte beaucoup pour moi, parce que c'est la dernière œuvre que j'ai chantée sous la direction de mon père, qui est mort 3 mois après. Il avait fait très bien équilibré son programme en dirigeant le Requiem de Mozart et le Requiem de Fauré. Mais ensuite... c'est vrai, on a tendance à considérer cette œuvre comme une œuvre un peu doucereuse, alors qu'il y a une sauvagerie cachée, mais qui est totalement maîtrisée. Et je pense que c'est également une sonorité, une qualité de patte, j'allais dire de matière musicale, qui est spécifiquement française. Mmh. Parce que si on compare ça, mettons, au motet qui est par Brahms, ou même au requiem allemand de Brahms, c'est pas le même univers sonore. C'est pas le même univers culturel, bien sûr, mais c'est pas le même grain de son. Et alors, je suis très sensible au grain de la musique, à la matière de la musique, qui est une chose très mystérieuse, parce que par contre, je vis dans la matière de la peinture. Et il y a une parenté profonde, je pense, entre cette musique française et la peinture française, qui est modérée dans son expression et qui, j'allais dire, est presque toujours un peu châtié.
Il y a une pudeur, finalement, si je vous écoute bien.
Il y a une retenue, il y a une pudeur. Et une sorte, au fond, un mot qui a totalement disparu du langage d'aujourd'hui, il y a une éducation.
C'est-à-dire qu'au fond, on n'expose pas tout.
On n'a pas à tout dire, mais on peut le suggérer.
Je vous écoutais, je me disais, au fond, vous avez rejeté, Vincent Biulès, cette enfance où votre mère vous abandonnait pour rejoindre votre père chanter. Finalement, vous avez à un moment décidé, vous aussi, de rejoindre votre père. Cette communion que vous avez connue musicale, ça vous a guidé,
ça m'a beaucoup aidé parce que mon père était un homme très... ma mère nous parlait très librement. C'était quelqu'un de très rassurant, de très fort, de très... avec lequel nous communiquions beaucoup. Elle était sévère, elle était rude parfois, mais elle avait une espèce de générosité naturelle extraordinaire. Et mon père était un homme réservé. Mon père ne m'a peu parlé. Et à la fin de sa vie, comme il adorait la compagnie des gens jeunes, notamment des jeunes femmes, et puis qui chantaient dans le chœur, et puis il avait également de jeunes ténors, de jeunes basses. Après les répétitions, on allait boire des coups, on allait boire des bières. Eh bien... j'ai été jaloux un peu de la familiarité qu'il avait avec ses garçons et ses filles, et une familiarité qu'il n'a pas partagée avec moi. Alors par contre, j'ai essayé de l'aider beaucoup dans sa musique, et j'ai été un peu son secrétaire. Et il m'a fait quand même des confidences très chaleureuses, mais tout à fait à la fin de sa vie.
Donc en fait, vous avez réussi à connecter avec votre père,
oui,
grâce à la musique.
Bien sûr, absolument.
Le quatuor Artemis interprète la cavatine du quatuor à cordes numéro 13 en si bémol majeur, opus 130 de Ludwig van Beethoven. C'est un quatuor, en tout cas cette cavatine est d'une grande intériorité, Vincent Bulès.
Alors c'est fantastique. Alors, pour les quatuors de Beethoven, j'en écoute souvent, mais je ne peux pas en écouter trop, parce que c'est quelque chose qui est si... qui, j'allais dire, qui vous atteint si profondément, d'une manière si intime, que c'est souvent, non pas difficile à vivre, mais on ne peut faire que ça, on ne peut pas peindre et écouter ça. Ou alors, non, il faut s'asseoir, il faut se recueillir. Et alors, le paradoxe, c'est que j'ai découvert cette œuvre, qui est très sombre, qui est presque couleur de cendre. Et je l'ai découvert dans une salle à manger, totalement baigné par le soleil, et c'était un ami, qui s'appelait Jacques Bonal, qui est plus âgé que moi, qui était un garçon très très vivant, très turbulent, très imprudent, qui était venu à Montpellier en Cagne, et qui, dont les parents faisaient de la musique avec mes parents, ils se connaissaient depuis très longtemps, et c'est lui qui m'a initié, alors que je sais pas, j'avais 14 ans, à Beckett, à Pichette, enfin c'était un type très très vivant, et qui ensuite a fait de la peinture et de la sculpture. Il a abandonné tout à fait le projet de littéraire qui était le sien au début. Et il m'a fait écouter ce quatuor et ça m'avait bouleversé.
Oui, vous étiez recueilli en écoutant la cavatine, d'autant qu'il y a quelque chose de, comme vous le disiez, une intériorité folle, un sentiment d'oppression, mais la quiétude qui nous regagne.
Bien sûr. Et alors, je ne suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup de musique de Beethoven. Je suis pas spontanément attiré par Beethoven, que j'admire, mais j'établis une très grande différence entre aimer et admirer. On peut aimer des choses qui sont pas admirables, et puis ne pas aimer des choses admirables. Parce que c'est pour des raisons très profondément sentimentales et psychologiques qui sont très mystérieuses, qu'il faut d'ailleurs arriver à déchiffrer. Mais il faut être capable d'admirer ce que nous n'aimons pas spontanément. C'est-à-dire voir la grandeur de la création, qui a une beauté qui lui est propre, même si elle ne nous concerne pas d'une façon affective.
Vincent Bulès, vous êtes peintre. Il y a actuellement une rétrospective de votre œuvre au musée Fabre de Montpellier. Et j'avais envie de vous demander, dans ce chemin qui est le vôtre, vous parliez de technicité, de reconnaissance de l'œuvre au-delà de l'émotion qu'elle peut générer. Vous avez participé et initié des mouvements comme Support Surface que vous avez décidé spontanément de quitter dans les années 70.
En 72. Le Support Surface, ça date de 70, justement. Alors, j'ai aimé la peinture de mon temps. Parce que quand on commence à peindre, on prend la peinture de son temps, fatalement. Donc, j'ai eu une sensibilité de ma génération, j'y ai totalement adhéré. Mais ce qui est important pour être libre, c'est à la fois de faire partie d'une génération et en même temps de découvrir sa propre singularité. Alors, bien avant le vernissage, j'ai pu l'accrochage au musée des peintures abstraites que j'avais pu faire. Et ben, au fond de moi, j'étais assez content. Je me disais, c'est quand même pas mal. J'ai fait de la bonne peinture non figurative, de la bonne peinture abstraite. Mais je me suis aperçu à un moment donné que ça ne me suffisait pas. C'est-à-dire que ce dont j'avais envie de parler, ce moyen-là ne me permettait pas de l'aborder d'une manière complète et d'une manière vraiment profonde.
C'était trop intellectuel?
C'était peut-être au fond trop abstrait, c'est-à-dire retiré de la réalité. Et ensuite, c'était, j'allais dire, peut-être trop sans le plaisir des yeux, un plaisir visuel devant les couleurs, devant l'intelligence des compositions. Mais au fond, j'étais un peu éloigné de ce formalisme.
Un extrait de la messe de Berlin d'Arvo Pärt, interprété par le Theater of Voices et le Chœur Hillier, sous la direction de Christopher Bowers Broadbent. Pour évoquer avec vous, ça c'est ma proposition musicale de l'émission pour vous, Vincent Bulès, parce que j'aimais ce parallèle que l'on peut tisser entre Arvo Pärt et vous, puisque lui, jusqu'aux années 70, a beaucoup travaillé la musique sérielle, et puis à partir des années 70, se penche plus vers ce qui lui parle le mieux, la musique sacrée. Alors d'abord, je voulais avoir votre réaction suite à cette écoute.
Alors je découvre ça et ça m'a beaucoup touché. Et alors ce qui m'a tout de suite intéressé, ce que j'ai perçu, c'est comment retrouver un sentiment finalement fort ancien, quelque chose, une sorte de socle émotionnel avec des matériaux contemporains. Parce que le traitement des voix est néanmoins une chose récente, une chose tout à fait contemporaine. On ne pouvait pas écrire comme ça il y a 100 ans, bon, c'est évident. Mais nous sommes plongés en écoutant cette musique dans un climat qui fait référence à quelque chose qui a existé et, comme dirait Delacroix, qui n'a pas encore été assez dit. Comme pour assouvir une sorte de désir d'une chose qui n'a jamais été assez dite et qui nous appartient intérieurement d'une façon presque brûlante et continue.
Vous, c'est ce que vous avez ressenti, Vincent Bulès, quand vous êtes revenu au figuratif?
Alors, le revenir au figuratif, j'ai fait à nouveau de la peinture figurative, mais il n'était pas question de revenir à la peinture figurative que j'avais fait avant de faire de la peinture abstraite. Donc, il a fallu que je rebâtisse un langage. Et je l'ai puisé d'ailleurs, dans, j'allais dire sans la moindre hésitation, dans toute l'histoire de l'art. C'est-à-dire, d'aucuns ont parfois dit que j'avais été un peintre de citation. Non, je me suis servi de ce que je percevais dans l'histoire de l'art qui pouvait justement exprimer des sentiments personnels et me servir de la peinture de Matisse, de Dufy, de Cézanne ou des primitifs sans me poser de questions. Comme si, au fond, l'histoire de l'art était un immense paysage dans lequel j'avais le droit de puiser tout ce dont j'avais besoin.
Donc là, on en revient à la phrase de Delacroix que vous citiez à l'instant.
Voilà.
C'est ça.
Delacroix dit, alors, c'est difficile de l'appliquer à soi-même, parce que ce qui fait les hommes de génie ne sont point les idées neuves, mais cette idée qui les possède tout entier, que ce qui a été dit ne l'a pas été assez.
Voilà, c'est ça. Voilà. Donc Arvo Pärt, d'une certaine manière, comme on le disait tout à l'heure, revisite ces choses qui ont déjà été dites et qu'il dit à sa manière.
Mais qu'il dit à sa manière, qui est une manière nouvelle.
le dernier mouvement de la symphonie numéro 3 en ut mineur, opus 78 de Camille Saint-Saëns, interprété par l'Orchestre symphonique de Montréal sous la direction de Kent Nagano. Et c'est Olivier Latrie, l'organiste titulaire de Notre-Dame depuis 33 ans, qui était aux orgues. Vous semblez d'ailleurs avoir une affection toute particulière pour les orgues, Vincent Biulès.
Non, parce que c'est
assez présent dans le programme.
Non, mais ceci étant dit, quand une symphonie telle que la symphonie que vous entendez, lorsque j'étais jeune, j'avais un peu de dédain pour ce genre de musique.
Ah oui.
Je trouvais finalement ça un peu académique, un peu suramené, un peu sans intérêt. Et maintenant, devenu vieux, je trouve ça admirablement fait. Et il y a une telle science de l'écriture, il y a une telle maîtrise. Et c'est là où je reviens à ce que nous disions tout à l'heure. Je peux vraiment admirer ce que je n'aime pas spontanément. Et je pense que ça, c'est un grand travail de liberté intérieure qui s'est produit. Et pour moi, ça, c'est important. Alors, effectivement, c'est un sens. Il cultive à la fois le pittoresque, et il a le goût du pittoresque, à un point extraordinaire, presque de l'humour, et en même temps, il y a une maîtrise du langage absolument fabuleuse. Mais là, quand on entre au fond dans la modernité de la musique française, à partir de Forêt, puis avec Debussy et Ravel, il y a une rupture qui se produit avec cette musique, et que nous ne pouvons pas rattaché non plus à ce qui s'est fait l'univers symphonique germanique ou autrichien, celui de Bruckner ou de Mahler, qui appartiennent à un autre univers
sonore
et une autre culture. Parce que ça, c'est complètement français dans sa structure même. Et alors, la question que je me pose aussi au sujet de la peinture académique, quand nous étions jeunes, on la regardait pas. Et je pense sincèrement qu'elle est beaucoup moins bonne qu'on ne l'a cru, mais bien meilleure qu'on ne nous l'a dit. Et qu'il y a toujours des choses à apprendre devant des tableaux académiques. Et ils constituent, mettons dans les musées, une sorte de chaîne qui permet de voir les chefs-d'œuvre. Parce que si on supprimait tous ces tableaux-là, si on ne laissait que les chefs-d'œuvre,
on ne pourrait pas comprendre les chefs-d'œuvre.
On pourrait peut-être pas les comprendre et on se dirait, mais il y a sûrement mieux ailleurs. Et on irait chercher quelque chose dans d'autres musées. Comme si nous avions perdu le fil d'Ariane.
Et vous, comment avez-vous cultivé cette ouverture, Vincent Biulès? Comment même vous avez réussi à apprivoiser ces œuvres qui, de prime abord, ne vous auraient pas interpellé?
D'abord, en les écoutant, et ensuite, en les écoutant in situ. C'est-à-dire, quand on les voit exécuter, j'ai jamais vu exécuter la symphonie de Saint-Saëns. Mais lorsque je vois, par exemple, je vais à un concert symphonique, je suis à quelques mètres de l'orchestre, et je vois cette vie qui émane de l'orchestre, on peut pas percevoir ça au travers du disque, même si on a un enregistrement et une chaîne absolument parfaite. Il y a une sorte de vie, de transmission d'énergie qui se fait entre tous les musiciens, qui est aussi un spectacle incomparable, qui n'est pas qu'un spectacle sonore.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Vous peignez en musique, Vincent Biulès?
Oui, parfois, oui. Mais je peux pas écouter, alors il y a des choses que je ne peux pas écouter en peignant. Par exemple, si je peux pas écouter la Messe en si mineur et faire de la peinture. Je peux pas écouter la Passion selon saint Matthieu et faire de la peinture. Par contre, je peux parfaitement écouter des concertos pour piano de Mozart et qui m'accompagne sans me gêner nullement, parce que c'est une musique absolument d'une profondeur extraordinaire, mais sans la moindre pesanteur.
Vincent Biulès est l'invité de Musique et moi jusqu'à 12h30 sur France Musique, et je vous invite à aller voir ses œuvres qui sont exposées en ce moment et jusqu'au 6 octobre prochain au musée Fabre de Montpellier.
Thank you.
Daniel Birnbaum avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin interprète le Larghetto du concerto numéro 24 en ut mineur, Köchel 491 de Mozart. Une œuvre parmi tant d'autres, puisque les concertos de Mozart comptent pour vous, on le disait à l'instant, Vincent.
Alors, les concertis de Mozart, c'est vraiment, ce sont des œuvres que je peux écouter tout le temps sans jamais m'en lasser. On n'est jamais fatigué par ces œuvres, parce qu'elles sont tellement mystérieuses. L'imagination ne peut jamais anticiper ce qui va se passer. Par exemple, on parle toujours de Haydn et puis de Mozart. Haydn est un architecte extraordinaire. C'est un constructeur de formes, c'est un inventeur de formes. Mozart n'a pas inventé des formes particulières. Alors quand on joue, par exemple, nous avons un ami très musicien qui s'appelle Gilles et qui joue avec nous.
Vous êtes violoniste,
oui,
aujourd'hui.
Mais avec beaucoup d'arthrose.
Coquet en plus.
Et qui joue les concertis pour piano de Haydn. Alors quand on a joué, mettons, quatre mesures, on peut, si on a un peu de pratique de la musique, imaginer ce qui va se passer dans les quatre mesures qui vont suivre. Et on se trompe rarement. Dans Mozart, c'est absolument impossible.
Il nous déroute tout le temps.
Il nous déroute tout le temps. Et alors, les idées ne sont pas juxtaposées. Par exemple, chez un musicien, au fond, qui n'avait pas une véritable technique. J'aime beaucoup la musique de Poulenc. Mais chez Poulenc, les idées sont juxtaposées. Et elles ne communiquent pas forcément les unes avec les autres. Chez Mozart, c'est la manière dont elles communiquent les unes avec les autres qui est un mystère absolu, parce que au lieu du développement, il s'agit simplement de suggestions qui sont perçues par notre psychisme et notre oreille.
C'est presque de l'association libre.
Tout à fait. C'est merveilleux. Thank you.
Samson François qui interprète la cathédrale engloutie de Debussy pour presque se quitter. Vincent Biulès, c'est Samson François en particulier, je crois, qui vous intéresse ou lui avec Debussy quand même.
La musique de Debussy et Samson François. Parce que cette musique, je l'ai écoutée jouer par Samson François dans les concerts des Jeunesses musicales de France lorsque j'étais enfant. Et c'est la musique que j'ai aimée du premier coup. J'entendais des messes de Palestrina, de la musique de Bach. Tout ça, j'ai appris à l'aimer. Tandis que ça, je l'ai aimé du premier coup. Et j'ai assisté peu de temps après une représentation de Béléas. Et j'ai été immédiatement, je me suis dit, ça, c'est la peinture pour la musique pour les peintres.
C'est intéressant, oui, parce que c'est ça, c'est de la musique pour les peintres.
Pour les peintres. Parce qu'il y a une matière musicale qui est incomparable. Et Samson François avait couché à la maison. C'était à l'époque où les artistes, comme on les appelait, n'avaient pas forcément beaucoup d'argent. Donc, il couchait chez l'habitant. Et ma mère, je me souviens, avait recousu les boutons de son frac et lui avait conseillé de ne pas mettre ses chaussures vernies sur son gilet blanc empesé.
Une vie d'artiste, c'est votre vie, à vous Vincent Biulès, qu'on va pouvoir voir exposer jusqu'au 6 octobre prochain au musée Fabre de Montpellier. Quand on vous écoute, on se dit que cet univers pictural qui est le vôtre doit être bien nourri, bien chargé et très dense, très intense. On a hâte de découvrir toutes ces œuvres qui jalonnent votre vie. On va se quitter avec Ravel et le tombeau de Couperin. Dirigé par Boulez.
Oui, la version orchestrale.
Voilà. Pierre Boulez, vous en avez parlé tout à l'heure.
C'est merveilleux parce que c'est d'une transparence absolue. Et quand j'étais adolescent, je faisais des devoirs, je m'embêtais. Et alors, j'écoutais cette musique sur le tourne disque du Brou de mon père. Et ça me faisait penser à fuir dans la campagne pour pouvoir peindre dans la lumière.
Eh ben, vous avez réussi. Merci beaucoup, Vincent Boulez. Et puis à très vite à Montpellier. Merci. Le prélude du tombeau de Couperin de Maurice Ravel pour terminer cette émission en compagnie du peintre Vincent Biulès qui est exposé en ce moment et jusqu'au 6 octobre prochain au musée Fabre de Montpellier et dont France Musique est partenaire. Je remercie vivement Valérie Lavallard qui était à la prise de son ce matin, Sophie Pichon à la réalisation et c'est Valentin Carpentier et Marie Ferdinand qui sont attachés de production. Je vous souhaite un très beau dimanche à l'écoute de France Musique. On se retrouve la semaine prochaine à 11h. D'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas à aller sur le site de francemusique.fr à la rubrique Musique et moi pour consulter ce que nous avons diffusé ou nous laisser des messages. Très beau dimanche.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.